la masterclass de Alain Bublex avec Anaël Pijat.
Bienvenue Alain Bublex dans cette masterclass de France Culture qui vous est consacrée et qui se déroule en public à la Maison de Radio France. Le principe de cette collection d'émissions est d'examiner la fabrique de l'œuvre. Les invités racontent les étapes d'élaboration de leurs travaux, la naissance des idées, la production, la réception des objets produits. Je voudrais rappeler Alain Bublex, que votre travail a fait l'objet de nombreuses expositions dans les plus grands musées, la Fondation Cartier à Paris, le Musée des Confluences à Lyon, le MAMCO à Genève, la Galerie Valois, avec qui vous travaillez depuis de nombreuses années à Paris. Au cœur de votre travail, depuis le début des années 90, il y a l'image. L'image que vous travaillez sous des formes variées, la photographie, les vieux polaroïdes, des tirages numériques en grand format, des dessins d'animation, mais aussi des maquettes, des automobiles et même un kiosque à hot dog. Aujourd'hui, vous êtes l'invité de cette masterclass, mais il vous arrive aussi de tenir l'antenne vous-même, et c'était le cas tout récemment encore, au printemps de septembre à Toulouse, où vous aviez réactivé avec du radio un projet né en 2009, c'est devenu la radio du bout de la nuit. Vous aviez à ce moment-là fait une sorte d'œuvre d'art totale, puisque vous avez aussi créé l'environnement de ce studio singulier. Pour commencer cette masterclass, disons d'abord quelques mots de votre formation. Vous avez été à l'école des beaux-arts de Mâcon et puis vous avez fait une école de design, l'ESDI. Est-ce que vous avez aimé ces années de formation ?
C'est toujours un peu curieux ce rappel sur ma formation. Parce que l'école des beaux-arts, je l'ai commencée et jamais finie. En fait, sur un cursus de 5 ans, j'ai pas fini la seconde année. Donc rappeler continuellement que j'ai fait l'école des beaux-arts de Mâcon, mais curieux à moi-même, puisque j'y ai effectivement beaucoup appris avec des amis, mais assez peu avec les artistes et les enseignants que j'y ai rencontrés. Surtout pas rencontrer là les conditions d'un travail intéressant, ou en tout cas qui puisse m'intéresser moi. Donc j'essaye depuis quelque temps de faire retirer cette mention. Mais en fait, une fois que quelque chose existe et a été écrit une fois, on peut plus jamais l'enlever. Donc je vis avec ça. Et l'école de design, donc c'est l'inverse. J'ai fini un cursus que j'avais pas commencé. Donc j'ai pas non plus l'impression d'avoir beaucoup fait. C'était une autre chance. L'école des beaux-arts m'a donné la chance de savoir ce qu'était le design. J'ai trouvé dans la bibliothèque de l'école un livre de Jocelyn Denoblet qui venait d'être publié à l'époque, qui s'appelait Design. Et c'est le moment où j'ai réalisé que les objets aussi pouvaient porter du sens. Et que dans les objets aussi, il pouvait y avoir autant que dans ce que le regard de ma famille portait sur les œuvres d'art.
Au fond, est-ce que vous saviez dès le début que vous alliez devenir artiste? En d'autres termes, est-ce que vous croyez à l'idée de vocation?
Non. Devenir artiste, c'était pas. Comment on peut avoir une vocation pareille? Non. J'ai toujours eu l'impression d'être un être humain, c'est-à-dire de vivre avec mes contemporains. Et ça, mon ambition n'a jamais été au-delà de maintenir ce statu quo d'une certaine manière entre nous tous.
Assez rapidement, vous êtes rentré chez Renault, où vous avez travaillé pendant 10 ans. Mmh. C'était une sorte de changement d'orientation.
Oui, c'est pareil. C'est un peu étrange. On dit toujours de moi que je suis un designer qui est devenu artiste. En fait, il suffirait que je redevienne designer pour qu'on dise de moi l'inverse. Donc, ça, je trouve ça un peu curieux toujours. Moi, j'ai pas eu l'impression de changer d'orientation, en tout cas de travailler différemment quand j'ai arrêté de faire des voitures chez Renault et commencé une pratique plus personnelle. En fait, il y a pas de. Pour moi, c'est les mêmes questions et les mêmes réponses appliquées à des objets qui sont finalement pas tellement différents.
Mais qu'est-ce qui vous a conduit chez Renault ?
L'école de design, justement, en fait, au moment du diplôme, il y avait des designers de chez Renault qui étaient là et qui m'avaient proposé de travailler. J'avais une grande curiosité pour l'automobile, en fait, et cette curiosité venait de mes premières expériences de jeune adulte vers 17 ans, quand j'avais des des amis qui avaient déjà le permis et on commençait à faire des trajets en voiture et j'étais très étonné par l'atmosphère de la voiture. En fait, j'étais très étonné par cette la voiture, c'est une sorte de petit habitacle qui se déplace dans l'espace comme ça, surtout en fin de journée. Et donc on est trois ou quatre dans un univers relativement réduit, dans une atmosphère réduite avec des odeurs, des sons, et on traverse les paysages. Et je trouvais qu'il y avait là quelque chose de vraiment étonnant qui méritait d'être travaillé.
C'est devenu votre premier appareil de photo?
C'est devenu mon premier appareil. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à convaincre chez Renault de cette qualité-là d'une voiture. Pour moi, c'était une expérience à organiser, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on pouvait, en dessinant une voiture, organiser l'expérience du monde dans le paysage et la vitesse mécanique. Oui, d'une certaine manière, la voiture est un appareil photo.
Est-ce que dans votre enfance, dans votre famille, l'art était une chose très familière ?
Pas familière, mais en tout cas omniprésente. En fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on regardait avec attention, et c'est une et l'expression artistique en général était un domaine pour lequel on adoptait des regards bienveillants.
Vous me disiez que votre père avait une culture classique.
C'est vrai. Donc mon père est un ingénieur qui a été formé dans l'immédiate après-guerre. Et effectivement, c'est une culture assez classique qui ressort pour moi maintenant de cet enseignement, une culture qui peut-être est moins présente aujourd'hui et qui me fait toujours penser au Grand Tour. C'est-à-dire que quand je pense à la manière dont il aborde en fait l'expression artistique d'une manière générale, il y a une sorte de grande suite d'événements majeurs. Dont l'acmé serait la Renaissance, et la Renaissance mènerait directement jusqu'à nous, et nous devrions toujours avoir le temps, le loisir ou l'exigence de passer par Vérone, Rome et Berlin, etc. Enfin, de voir les grandes capitales, de faire le tour de l'Europe pour aborder les questions de la création.
Et l'engagement politique était une chose aussi assez importante.
Oui, c'est donc un ingénieur et un syndicaliste. J'ai été baigné dans le syndicalisme donc toute ma vie, dans les années 60 et 70, et donc mon enfance a été accompagnée par l'idée qu'un monde meilleur était possible, et que donc on devait pouvoir améliorer toujours le monde dans lequel on vivait, et que donc chaque chose était perfectible, et que chacun des êtres, enfin chacun d'entre nous qui travaillons à toutes les choses, étions en mesure de les transformer collectivement.
De là peut-être la dimension très utopique de certains de vos travaux.
Je l'ignore. Ça, c'est, je ne sais pas. Peut-être, oui. J'ai aucune idée sur ce.
Très tôt, vous avez eu une pratique photographique très différente de celle que vous avez eue ensuite. Je parle là avant votre entrée chez Renault. De quoi s'agissait-il ? Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez encore aujourd'hui ?
Oui. J'utilise continuellement un appareil photo. En fait, j'utilise des appareils photo depuis qu'on m'en a mis dans les mains. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu intrigué, parce que je fais des photographies continuellement, et pour autant, la photographie comme médium, enfin la photographie comme image, m'intéresse au fond pas tellement. Et j'ai réalisé récemment que quand je regardais des photos, déjà à cette époque-là. Déjà très tôt, et pendant que j'étais chez Renault aussi, quand je regardais des photos, je me posais jamais la question de la photo elle-même et de ce qu'elle pouvait être sur les murs d'une galerie ou sur les murs du musée, mais plutôt du lieu et du moment dans lequel cette photo avait été prise. Et finalement, pour moi, les photos, d'une manière générale, c'était pas des images, mais c'était des endroits et des moments. Et ce à quoi j'aspirais, c'est à retrouver ces moments, à retrouver ces lieux, plutôt qu'à fabriquer ces images, ce qui est assez différent.
Et finalement, quand on regarde votre travail, on a le sentiment que la photographie est au centre de tout, et pourtant, ça ne se voit pas forcément au premier regard.
Finalement, je montre assez peu de photos. Enfin, elle est omniprésente. On en voit des traces partout, mais il y a assez peu d'ensemble constitué de photographies dans mon travail, mais probablement pour cette raison-là. C'est parce que la photographie permet pour moi d'être en relation avec les choses. En fait, la photographie ouvre une relation au monde, mais elle ne permet pas de témoigner du monde. Du coup, les images, finalement, j'ai jamais pensé vraiment qu'on avait besoin de développer ou de tirer les photographies qu'on prenait. En fait, le moment de la photographie a toujours été pour moi celui de la prise de vue, bien plus que celui de l'exposition. L'exposition, c'est une sorte de conséquence, d'une certaine manière.
Et donc, cette collecte de photographies que vous avez commencé très tôt, vous la poursuivez aujourd'hui comme une sorte de grande réserve d'images ?
Ben, une réserve d'images, non, pas tellement, comme une manière de réactiver continuellement ma curiosité. C'est-à-dire que je sors mon appareil photo pour... mais je pense qu'on le fait tous, beaucoup. On sort son appareil photo pour être attentif au monde. Je crois que Serge Tisseron dit ça probablement dans un livre. Je vois pas de qui d'autre je pourrais sortir une idée pareille. On sort son appareil photo, en fait, pour prendre conscience du monde qui nous entoure. Et c'est à ce moment-là que la photographie tire son, enfin que la photographie comme technique a toute son importance. Et je continue à le faire continuellement, oui.
Qu'est-ce qui a fait après une dizaine d'années chez Renault que vous avez décidé de quitter l'entreprise et de vous orienter au fond vers d'autres sortes d'images?
Mais décide-t-on jamais quoi que ce soit? C'était pas totalement intentionnel. En fait, je me suis laissé emporter par un mouvement que j'avais dû créer, mais j'y ai pas vraiment fait attention. J'ai dit il y a longtemps une phrase à ce propos, mais je la répète parce qu'en réalité, en la relisant souvent, elle me paraît beaucoup plus juste que celle de mes études à Mâcon. C'est eux voulaient faire de l'argent, moi je voulais faire des voitures, et on n'est pas resté copains très longtemps. Et on s'est pas entendu très longtemps. Et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que je suis un peu lent. Vous le reconnaissez. Une dizaine d'années pour s'apercevoir qu'on n'a pas les mêmes objectifs. C'est quand même, ça témoigne d'un peu de patience. Mais effectivement, c'était le cas. C'est-à-dire que je pense que l'industrie, enfin, j'ai réalisé à un moment donné que l'industrie automobile, l'ambition des gens qui travaillaient avec moi dans l'automobile n'était pas de faire des voitures, enfin, n'était pas de produire un objet en assumant la responsabilité sociale dans toutes les dimensions, en fait, de l'implication sociale et politique que ça peut avoir de produire un objet, mais en fait visait simplement à dégager une marge de cette activité, et c'était pas du tout mon ambition.
Et qu'est-ce qui a fait à ce moment-là que vous avez choisi plutôt le champ des arts visuels que celui du son, de l'écriture, du cinéma peut-être ?
La photographie, je suis pas sûr d'avoir choisi. J'étais mis devant le fait accompli de ma propre production, c'est-à-dire que j'avais évidemment, comme beaucoup d'entre nous, une sorte de production annexe à mon travail, quoi, à ma production salariée. Et ces objets étaient des images, et ils ont suscité en fait l'objet d'une exposition plus que ça n'a été un objectif précis de ma part.
Je voudrais qu'on s'intéresse à présent à la genèse de ces œuvres que vous avez commencé à produire. Avant toute chose, pour vous, il y a le voyage qui nourrit votre réflexion. De quelle manière ça se passe? Comment vous voyagez, Alain Bublex?
Je serais tenté de dire comme tout le monde, en fait. Je voyage comme un touriste, en lisant des livres ou en entendant parler ou en regardant des films ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je m'y rends. Et sur place, soit en suivant mon guide, soit en me rappelant des souvenirs, j'essaye de faire coïncider ce que je vois avec ce que je sais. Et dans ce moment-là, il se passe quelque chose de toujours unique, me semble-t-il, en fait, d'arriver à faire coïncider la perception de l'environnement avec le savoir que l'on a de cet environnement. C'est ça, le tourisme.
Mais est-ce que vous allez chercher des choses, ou est-ce que vous trouvez des hasards? Est-ce que vous trouvez d'autres choses qui vous nourrissent?
Les deux. En fait, il faut aller chercher quelque chose pour rencontrer des hasards en cours de route.
Et est-ce que ces destinations ont besoin d'être exotiques? Est-ce que ce sont des voyages lointains?
Longtemps, oui. Et c'était un étonnement, en fait. Longtemps, oui, j'avais tendance à toujours vouloir être ailleurs. et jusqu'à ce que je vois une exposition d'un photographe, pas un photographe vernaculaire, mais presque, au musée de Saint-Étienne, Félix Thiollier. Donc un photographe amateur, fortuné mais amateur du tournant du siècle, et que je réalise qu'en fait il avait passé sa vie à photographier les lieux que je traversais pour aller ailleurs. Et j'ai réalisé que probablement je devais faire plus attention à mon environnement immédiat. En tout cas, qu'il y avait là quelque chose comme un enjeu, c'est-à-dire pour moi de voir ce qui m'entourait avec la curiosité, avec la même curiosité que j'investissais dans un regard plus lointain, comme ça, c'est-à-dire à trouver de autant d'étonnement dans mon environnement immédiat que dans des voyages au Japon ou aux États-Unis.
Et est-ce qu'il y a d'autres formes d'art qui vous nourrissent, de la littérature, de la musique ?
Non, il n'y a pas de forme d'art qui me nourrisse plus que ne me nourrit des objets du quotidien. Je vois pas vraiment la différence entre un film et une passoire. En réalité, pour moi, l'intérêt est le même. C'est pas que le film est moins bien ou mieux, ou que la passoire est moins bien ou mieux, c'est que c'est exactement équivalent. Derrière chaque objet de la production humaine, donc un trottoir, une passoire, une ville, une architecture ou un film, je perçois rapidement un projet, ou je cherche à percevoir rapidement un projet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a porté cette chose-là un jour? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on est en mesure de l'avoir aujourd'hui? Et tout devient passionnant. En réalité. Du coup, je dirais pas qu'une forme d'art ou que l'art en général ait pu me nourrir plus que n'importe quoi d'autre.
Si on en vient à l'idée de départ d'une œuvre, ça se passe comment là encore? Est-ce que c'est justement un morceau de paysage, un objet qui vous inspire quelque chose? Si on prend par exemple Plug-in City, d'où est venue qui est une de vos œuvres? De vos séries d'œuvres tout à fait emblématiques. D'où est venue la première idée?
On est toujours surpris par les idées. En fait, elles nous prennent par surprise plutôt. Tout d'un coup, on est mis devant le fait accompli, l'idée, elle est là. Et jamais quand on s'y attend. Donc, je saurais pas dire d'où elle vient exactement. Je pense que les idées, enfin mes idées plutôt, en tout cas des idées du genre de Plug-in City, viennent de rencontres, d'interconnexions entre différentes choses qui m'intéressent simultanément. Et peut-être justement de cette idée que sont équivalents les travaux de Peter Cook et les Algeco d'Algeco. Et que les deux portent le même intérêt. Et à un moment donné, ils se rencontrent d'une certaine manière et s'incarnent pour moi dans l'idée de cette... de ce que vous appelez cette série. J'aime pas le mot série, donc voilà.
On va y venir peut-être tout à l'heure. Ouais, si on prend un autre exemple, celui de l'ensemble que vous avez fait autour du plan voisin de Le Corbusier, comment vous avez travaillé? Vous vous êtes documenté, vous vous documentez beaucoup, vous lisez, vous allez dans des archives?
Oui et non. Je me documente beaucoup. Oui, c'est vrai. J'essaye de me documenter beaucoup, mais beaucoup moins qu'un universitaire en même temps. C'est quelque chose de beaucoup moins structuré. J'attrape les choses qui volent autour de moi plutôt que je ne travaille sérieusement. Mais pour quelque chose comme ce travail-là, donc le plan voisin, où je tente de poursuivre le travail de Le Corbusier là où il l'interrompt, effectivement, j'ai fait peut-être plus attention à sa production, mais je me suis pas beaucoup documenté sur. J'ai pas lu ses livres, par exemple, mais j'ai regardé les plans et j'ai traversé les villes.
Les plans qu'il avait fait pour Paris.
Oui,
qui n'ont jamais été réalisés.
Pour Paris, pour Saint-Dié, pour Anvers, pour Chandigarh, les plans quoi. Les plans, les dessins, les maisons construites, les cités radieuses toutes, l'ensemble de Firminy, etc. Tout ça me parle de manière plus directe et d'une certaine manière, de manière plus sûre que les livres ou les commentaires. En fait, je préfère aller voir la chose elle-même, la contourner, l'observer.
Pour vous l'approprier?
Non, pour comprendre pourquoi elle est comme ça. En réalité, c'est en voyant la chose que je vois l'esprit de Le Corbusier au travail. En regardant la manière dont une rambarde est dessinée, et en se posant de la question de savoir, mais pourquoi cette courbe? Pourquoi cet emplacement? Pourquoi cette chose-là? Pourquoi elle est comme ça? Il y a toujours une difficulté dans le fait de donner une forme à une chose. Et donner une forme à une chose, c'est toujours répondre à une question. Et j'aime bien trouver la question.
On a l'impression que votre œuvre fonctionne souvent dans des sortes de collages d'images. Et je me disais peut-être que c'est un héritage de votre passé de designer industriel. On a l'impression que vous aimez faire des branchements d'images, des branchements d'idées, des branchements d'objets les uns sur les autres. Est-ce que ce mot signifie quelque chose pour vous ? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu à l'image de l'ensemble de votre travail ?
Oui, des branchements, des interconnexions, des croisements, quelque chose comme ça. Enfin, le français est toujours un peu pauvre en mots. On doit faire des phrases pour compléter cette pauvreté. Oui, mais c'est pas seulement connecter une chose au sens où on branche une prise, par exemple. Mais c'est plutôt voir une intersection aussi. Les choses se branchent quand elles s'interconnectent. D'ailleurs, les branches des arbres sont interconnectées ou prennent naissance les unes des autres. Et oui, je crois qu'il y a beaucoup de ça.
Ensuite, comment vous vient la forme juste d'une œuvre, c'est-à-dire le médium juste? Comment décidez-vous de ce que va devenir une idée entre une image photographique, des dessins vectoriels, un film d'animation? Peut-être qu'on peut prendre l'exemple de l'exposition que vous avez faite cet automne à la Galerie Valois qui s'appelle American Landscape.
J'ai toujours tendance à dire que je suis mis devant le fait accompli. C'est American Landscape, donc c'est un dessin animé qui prend appui sur un film que j'aurais pu tout aussi bien effectivement retourner ou enfin, filmer une seconde fois, ou j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses. Il s'agit d'un dessin animé. C'est une idée que j'ai depuis longtemps. Enfin, l'intérêt pour le film originel est ancien. Et ça faisait longtemps que je me demandais quoi faire avec cette idée-là, mais que j'attendais de me trouver dans l'obligation de le faire. Et un jour, je me suis trouvé dans l'obligation de faire un dessin animé. Et parfois, on se sent dans l'obligation de faire quelque chose et assez rapidement, on pense que, enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est pas suffisamment intéressant pour être fait. Je suis un peu méfiant. Avec mes idées. J'aime pas trop donner naissance ou en tout cas fabriquer des choses qui ne soient pas totalement utiles.
C'est sur le chemin de ce dessin animé que vous avez décidé d'extraire des paysages de ce film de Rambo.
Oui, c'est après avoir fait
en le vidant de ses personnages.
Oui, c'est après avoir fait le, c'est en faisant le dessin animé. En fait, en réalité, en dessinant les plans du dessin animé, j'ai réalisé que la peinture américaine revenait à la surface du film que j'étais en train de faire, et que chacune des images de ce film-là, ou même pas chacune des images, mais quelques cadrages dans ces images-là, étaient en fait des peintures américaines qui vivaient là, tapis dans l'ombre, d'une certaine manière. Et j'ai décidé de les éclairer un peu plus, de les mettre un peu plus en lumière en les extrayant du film et en les montrant comme des peintures.
Vous regardez beaucoup de la peinture ?
Non, assez peu. Enfin oui et non, enfin beaucoup plus que la plupart d'entre nous au sens très large. Mais peu en regard d'un historien ou d'un critique. Mais après m'être désintéressé véritablement de la pratique ou de la production ou de ce qui était montré en art après une année et demie passée aux Beaux-Arts, je m'y suis réintéressé progressivement par le biais de la peinture et par le biais de la peinture américaine. Du coup, c'est un domaine que je connais assez bien et que j'ai beaucoup regardé. Donc là, et essentiellement la peinture des années 10, 20 et 30, quoi. L'école de la poubelle, les régionalistes, toutes ces choses-là.
Il y a souvent, quand on regarde vos images, une part de doute, d'indécision. On se demande si on est devant une photographie, devant de la peinture, justement. Vous aimez cette sorte d'hésitation que procurent ces œuvres ?
J'aime effectivement bien qu'on puisse pas qualifier directement le travail de peinture ou de photographie, mais même mieux que ça, j'aime bien qu'on ne puisse pas être certain que ce soit une œuvre. Et enfin, une œuvre au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire, bon, évidemment, c'est un travail puisque ça a été fabriqué, mais qu'on soit pas tout à fait certain que ce soit une œuvre. D'ailleurs, je suis pas tout à fait certain non plus, et je sais pas moi qui décide ça. Donc ça me va bien que ça soit indécis et que ça se voit que cette décision-là reste à prendre et qu'au fond elle n'est pas peut-être pas prise encore.
Alors venons-en justement à votre méthode de travail qui est un des points importants de ces masterclass de France Culture. Est-ce que justement vous avez une méthode ? Est-ce que vous avez dans votre manière de travailler, des horaires, des lieux, des rituels. Est-ce qu'il y a une journée type d'Alain Bublex? Est-ce que vous avez des carnets? Est-ce que vous écoutez de la musique pendant que vous travaillez?
Oui, ça fait plein de questions en même temps. J'ai pas de vrai rituel. J'ai des carnets et j'écoute pas toujours de la musique, mais souvent. Non, je peux pas dire que j'ai une méthode. J'ai eu la chance justement de pratiquer le design dans une grande entreprise pendant une dizaine d'années, donc quasiment entre 20 et 30 ans. Ce qui fait que ça a réglé pour moi toutes ces questions-là. Par avance, en fait, travailler, se lever le matin, travailler en commun, partager un travail, etc. Je savais ce que c'était. Du coup, j'ai pas besoin d'en faire l'expérience et j'ai pas besoin d'être soutenu par ça pour continuer à travailler. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que je travaille pas du tout, en fait, parce que justement, j'ai pas d'horaire, j'ai pas d'atelier, je travaille chez moi, je travaille même dans la pièce dans laquelle on vit et j'aime bien ça. J'aime bien que l'atelier soit pas un atelier, mais soit aussi une bibliothèque, une salle à manger et un salon. Et que finalement, mon activité se dissolve un peu dans la vie des gens qui m'entourent. Et qu'elle soit pas totalement remarquable, en fait. Ou pas du tout remarquable, même. Il s'agit vraiment de quelques papiers, quelques livres, d'un ordinateur. Tout ça soit finalement assez anodin. Et je travaille autant quand la maison est vide que quand elle est pleine, en fait. Ou je travaille tout le temps, c'est ce que pensent la plupart des gens, ou je travaille jamais, c'est ce que je pense moi.
Et donc en fonction des projets, ça se passe toujours comme ça?
Oui, toujours, toujours. Et je mets très longtemps à être convaincu qu'un travail doit être fait. Donc je note des choses dans des carnets, j'ai toujours un carnet avec moi. Et progressivement, les carnets sont utiles pour être relus, je crois, après quelques années. C'est-à-dire après, ou quelques mois, comme ça. Tout d'un coup, ça produit on en parlait tout à l'heure, en fait, des courts-circuits, temporels ou géographiques, même. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a des condensés, comme ça, soit entre le moment où vous le lisez et le moment où vous l'avez écrit, soit entre deux pages qui étaient séparées de plusieurs semaines et qui se retrouvent là, lues à quelques secondes d'intervalle. Et ces courts-circuits, m'éclairent, en fait, des zones d'intérêt, qui décident véritablement d'un travail. Mais la plupart du temps, soit quand on a une question qui nous est posée de l'extérieur, donc dans le cas d'une commande, par exemple, un architecte, un designer ou quelque chose comme ça, soit ce qui est plus fréquent pour les artistes quand cette question est interne, enfin est propre au travail lui-même. Je crois que la question reste en suspens assez longtemps et qu'il y a une phase qui suit ça, qui est assez informelle, qui est une phase de saturation des questions autour de cette question. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se documente, on lit, on regarde, on s'attarde, etc. Et je l'observe continuellement dans ma propre manière de travailler. C'est-à-dire, je pense que quelque chose m'intrigue. Le fait, par exemple, que le film de Rambo ressemble à une vallée en Savoie. Ça m'intrigue et je l'ai remarqué en, je sais pas, 98 ou 99, comme ça. Et donc l'année dernière, j'ai su quoi en faire, un dessin animé. Donc ça a pris une vingtaine d'années, mais en réalité, j'étais pas pressé. Ça aurait pu ne jamais venir non plus. C'était pas une question, mais c'est plutôt comme ça que les choses marchent. Donc entre-temps, dans ces 20 ans, j'ai regardé beaucoup le film Rambo et beaucoup d'autres films aussi. Je suis retourné souvent dans cette vallée.
Est-ce que vous travaillez avec des collaborateurs? Est-ce que vous avez des assistants? Est-ce que vous avez des conseillers?
Pas vraiment. Le travail chez Renault m'a vacciné pour ces choses-là. J'ai l'impression que ces grands ateliers qui ont été un peu, enfin, qui le sont toujours d'ailleurs dans notre génération d'artistes, mais enfin, qui sont ouverts avec les artistes de la fin des années 90, quoi, avec ces films qui avaient des grands génériques comme ça et qui semblaient en fait prendre de la puissance ou de l'importance au nombre de collaborateurs. Parce que, mais effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que plus il y a de gens intéressés par un projet qui apparaissent au générique du projet, et plus le projet semble prendre du poids et être intéressant lui-même. Enfin, c'est quelque chose qui m'a jamais tellement imprégné, puisque j'avais précédemment travaillé 10 ans avec 80 collaborateurs, enfin c'est ça un bureau de design, enfin t'es entre 80 et 300 à travailler sur les mêmes objets. Du coup, partager ou être ensemble, ça me disait rien. Ce que j'aime bien, en revanche, c'est l'absolue indépendance de tout faire dans une économie domestique. Donc j'ai pas de collaborateurs, j'ai pas d'atelier, j'ai pas de moyens, je travaille dans ma cuisine, et je pense que ça est la condition d'un travail dont j'ai pas à négocier l'ampleur. Voilà, je n'aime pas négocier l'ampleur d'un travail. Je pense pas qu'il prenne du poids. suite à une négociation. Je pense que son poids n'est pas important.
Est-ce qu'il y a néanmoins des regards extérieurs qui peuvent avoir une importance, des critiques, des amis, d'autres artistes, votre galerie ?
C'est capital. Je ne pense pas qu'on puisse travailler sans dédicace secrète dans le travail. Donc effectivement, il y a le regard quand on est en train de travailler, qui vient de l'extérieur, qui s'intéresse à quelque chose. Mais même au-delà de ça, j'ai souvent observé, particulièrement dans le dessin, mais peut-être même dans les photos, en fait, il est rare que je fasse... Je ne crois pas n'avoir jamais fait quoi que ce soit sans penser à personne. Dans ce sens que, on fait un dessin et en dessinant, on pense à quelqu'un que le dessin va intéresser, ou que le dessin va étonner, ou que le dessin va intriguer. Même pas sûr qu'il le voit, en fait. Mais on pense à quelqu'un. J'ai toujours pensé à quelqu'un. En fait, des dizaines, peut-être des centaines de gens sont en pensée dans tous ces dessins où il n'y a personne.
Et est-ce que les commissaires de vos expositions sont des interlocuteurs importants ?
Oui. Oui, oui, bien sûr. Enfin, oui, c'est... tout le monde a suffisamment d'influence pour pas ajouter des assistants. Voilà, soyons... Non, mais bien sûr, on travaille pas avec des gens qu'on n'apprécie pas. C'est pas possible, je veux dire, c'est pas... Ou alors, c'est du coup, ça devient vraiment l'autre acceptation du mot travail, et ça devient un travail au sens auquel au sens que donnent les anarchistes, quoi. L'étymologie de travail dans torture, quelque chose qui devient une difficulté, quoi. Et ça, c'est pas...
Au fond, dans tout ça, qu'est-ce qui est le plus difficile, justement ? Dans toutes ces étapes qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'il y a des moments où vous savez que vous allez rencontrer des difficultés, ou est-ce que tout coule de source ?
Oui, comme
je fais... En tout cas, avec un certain naturel.
J'essaye plutôt de me trouver dans des situations dans lesquelles ça coule avec naturel et dans lesquelles les choses vont naturellement... J'aime bien qu'on soit enthousiaste pour aller ensemble dans la même direction. Et la plupart du temps, bizarrement, c'est le cas.
Alors, on peut en venir maintenant au moment de la fabrication de vos œuvres à proprement parler, qui est aussi un de ces sujets toujours abordés dans ces masterclass de France Culture. Et avec vous, c'est particulièrement intéressant d'évoquer ce sujet parce que précisément, vos œuvres donnent très souvent à voir leur processus de fabrication. C'est-à-dire que on voit souvent dans vos œuvres, en quelque sorte, des modes d'emploi, des plans, des cartes. Montrer à voir la fabrication d'un objet, c'est quelque chose qui vous intéresse ?
Oui, ça me paraît important, particulièrement pour des œuvres d'art, d'une certaine manière. Je veux dire, j'aime bien qu'il n'y ait pas de magie. Qu'on se demande pas comment c'est fait, en fait, qu'on se demande pas comment ça tient, etc. Pour moi, le travail ne repose pas là-dessus. Alors parfois, effectivement, dans la réalisation, il y a quelque chose qui est un peu magique, effectivement. Mais j'aime bien que soit visible la manière dont on l'a fait, en fait, que ça reste visible. C'est-à-dire dévoiler, d'une certaine manière, le secret dès le départ. Mon premier travail avait été la description d'une ville imaginaire. Et j'avais toujours à cœur que le fait que la ville soit imaginaire, en fait, soit dévoilée dès le départ, parce qu'elle était parfaitement réaliste. Et effectivement, on pouvait s'y perdre, s'y prendre, en fait. C'est-à-dire que si on ne le savait pas à l'origine, on pouvait penser que la ville existait. Et je trouvais que ça, c'était une relation biaisée et inintéressante. En fait, le projet pour moi était plus intéressant. Enfin, le travail pour moi était plus intéressant. Dès lors qu'on savait justement que cette ville-là est imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus intéressant de savoir comment c'est fait et de regarder comment ça tient, en fait, que d'être étonné. Je suis pas dans l'étonnement, dans la magie, dans le caractère comme ça, presque religieux de l'art qui serait l'expression d'une personnalité particulière ou singulière, non. Non, non, c'est pas du tout ça.
On a l'impression qu'il y a une sorte de coïncidence entre certains des sujets même que vous utilisez, la ville par exemple, et cette idée d'un objet en transition, en mouvement, d'une sorte de matière ductile dans la manière dont vous représentez certains paysages et en particulier certaines villes. Ça me semble une chose assez présente, que ce soit dans Plug-in City ou dans Glooscap par exemple.
C'est-à-dire que les choses évoluent, qu'elles se transforment dans le... Oui, Enfin, ça, c'est une chose peut-être ambiguë ou dans mon travail. À la fois, j'interromps le travail assez tôt et en même temps, il est jamais totalement terminé. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai un peu de mal, c'est qu'il ne me semble pas qu'on puisse dire que qu'une œuvre est totalement finie. En tout cas, on doit pouvoir la reprendre.
Vous avez par exemple montré une œuvre qui est un prototype Aerofiat et qui est un prototype même qui fonctionne.
Ça arrive, mais oui. Donc il y a des objets qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas et d'autres qui sont pas finis. L'Aerofiat fonctionnait. Mais la voiture Meunier Béraud a jamais été terminée. Parfois, en fait, il y a une vraie question. C'est à quel moment interrompre le travail, en fait. À quel moment une œuvre existe. Et finalement, c'est pas tellement à quel moment une œuvre existe. C'est-à-dire, c'est à quel moment l'idée est effectuée. À quel moment l'idée prend corps, s'incarne dans un objet. Et j'ai souvent le sentiment que c'est assez tôt. C'est-à-dire qu'on peut interrompre le travail en fait bien avant ce qu'on imagine. Ce qui fait que, par exemple, c'est le cas de la voiture Meunier Béraud. Donc c'est la reconstitution en maquette à l'échelle 1 d'une voiture vernaculaire qui a existé dans l'immédiate après-guerre. Et la seule chose qui en existe en fait, c'est l'atelier dans lequel on est en train de construire cette voiture-là, qui se construit chaque fois que la pièce est montrée, dans le temps en fait de montage de l'exposition.
C'est-à-dire que c'est l'exposition qui fabrique l'œuvre.
C'est l'exposition qui fabrique l'œuvre dans un temps qui est un temps gagné sur l'exposition elle-même. Donc le travail est toujours interrompu quand l'exposition commence, donc on voit personne travailler. L'idée, c'est pas tellement de montrer comment c'est fait, c'est en fait de travailler dans un temps qui a été le temps en fait de la fabrication de l'objet originel. Et donc cette pièce et ce travail sur un objet vernaculaire qui était ce qui m'intéressait à l'origine n'avait pas, enfin rien n'imposait ou rien ne justifiait absolument que la voiture soit finalement construite. Donc le travail pouvait s'arrêter assez tôt. Et parfois mais beaucoup de gens peut-être rencontrent la même difficulté avec simplement un dessin. C'est quand arrêter de dessiner. Et on le sent bien quand on dessine. Il y a un moment où le dessin est bien et si on va trop loin, on perd le fil ou on perd le dessin, on perd ce caractère un peu radical, bref. Et des gestes premiers. Et donc il y a une vraie difficulté là, je pense.
C'est qui
pour moi se règle en fait en interrompant le travail tôt, et d'une certaine manière en l'interrompant tôt, ça libère aussi la possibilité de le poursuivre plus tard.
Justement, le critique d'art Bastien Gallet parle de vos œuvres comme des arrêts successifs les uns après les autres, et on peut rejoindre en tout cas là, le champ lexical de la photographie, en tout cas le principe d'un arrêt sur image.
Oui, c'est vrai. Mais moi, je fais pas ce genre de. En fait, ce sont pas des choses à quoi je pense en le faisant. C'est-à-dire, je fais pas ces relations-là. Je suis juste un peu méfiant. J'aime pas les œuvres qui prennent de la place. En gros, qui occupe l'espace, voilà, une œuvre qui s'installe dans l'espace comme ça et qui essaye de le tenir toute seule, c'est quelque chose que je voudrais pas faire, en fait. Donc je suis un peu méfiant vis-à-vis de mon propre travail. J'ai dit tout à l'heure qu'il me fallait longtemps pour être convaincu qu'un travail devait être fait. Et je suis toujours assez désireux de l'interrompre tôt ou de faire en sorte qu'il reste le plus léger possible.
Et vous disiez aussi que vous étiez méfiant à l'égard de la notion de série.
Oui, alors je ne sais pas pourquoi exactement, mais peut-être parce que on a toujours l'impression que les séries se succèdent. Qu'on aurait comme ça des temps dans le travail et que un temps serait remplacé par un autre et que donc les séries se succéderaient les unes aux autres et je parle plutôt par ensemble qui serait d'abord qui serait peut-être moins qu'on aurait plus de mal à circonscrire mais qui serait aussi plus polymorphe qui peuvent courir sur s'entremêler, courir, se passer de l'un à l'autre, etc. En fait, et les ensembles sont mouvants dans le temps. Donc, mais c'est peut-être une coquetterie en fait. De
finalement, comment vous construisez vos œuvres les unes par rapport aux autres ? Est-ce que il y a, parce que il y a quand même souvent des fils qui les relient les unes aux autres assez étroitement, même parfois par-delà les expositions, enfin d'une exposition à l'autre. Est-ce que parfois ça se passe en opposition, par contraste ?
Bon, il y a effectivement les idées qu'on poursuit, mais est-ce qu'on a vraiment deux idées ? Je suis pas très sûr. Enfin, je pense que on a surtout du mal à préciser ou à accéder au point nodal du travail qu'on contourne continuellement, qu'on décrit continuellement. Donc, je suis pas sûr d'avoir deux idées. Il y en a peut-être qu'une. Je regarde toujours mon travail un peu avec l'œil du public quand même, c'est-à-dire à un moment donné, une fois qu'il est fait, qu'il est posé là, je le regarde et là il commence à m'étonner. En fait, je m'étonne d'avoir moi-même d'avoir fait ça techniquement d'une part, mais aussi de la portée ou de la situation des choses. Est-ce qu'elles sont bien placées là ? Donc les travaux suivants étaient contredisent et continuent en fait le travail à partir du regard sur le. Sur la première chose existante. En fait, la raison pour laquelle une chose existe me vient toujours après la fabrication.
On revient à l'idée qu'on évoquait au début à propos du voyage, qui est que finalement le moment de transition est plus important que la destination, peut-être. Si on prend l'exemple de votre boîte à conscience, on se trouve un peu devant cette idée-là.
Oui, la Awareness Box, c'était un appareil photo qui prenait pas de photos. C'était pas tellement paradoxal en fait. J'avais été invité à travailler en Corée et donc j'avais proposé de travailler avec Samsung au développement d'un appareil photo qui n'enregistrerait pas les images qu'il était capable de saisir. L'idée était celle que j'ai dit tout à l'heure sur la photographie, que finalement sortir un appareil permettait le regard d'une certaine manière. Et donc, je constatais que je regardais assez peu des images que j'avais prises précédemment, et que finalement c'était peut-être pas la peine de les enregistrer toutes, et qu'effectivement, dans ce cas-là et dans le cas de la photographie, le trajet, la prise de vue, la pratique d'une certaine manière est plus signifiante ou plus importante que les images qui seraient l'objectif, enfin le but final, et qui lui pourrait se dérober continuellement.
Dans cette collection d'émissions, on se pose souvent la question de l'achèvement de l'œuvre, qui chez vous est une chose un peu particulière, puisque vous montrez souvent des œuvres qui ne sont pas finies, peut-être ne sont-elles pas pour autant inachevées. Par exemple, dans l'exposition de la Galerie Valois, dont nous parlions à l'instant, An American Landscape, le dessin d'animation que vous montrez dure 15 minutes. Ça n'est que le début de ce film. Le finirez-vous jamais ?
Oui, y a peut-être un moment où j'arrêterai de travailler dessus, enfin que ce travail-là sera remplacé par un autre, mais effectivement, il n'est pas terminé. Mais c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. En fait, le finirez-vous jamais ? J'en sais rien. Et finalement, ça m'intéresse pas tellement de le terminer. Mais j'ai quand même toujours le sentiment qu'on gagnerait souvent à ne pas terminer ce qu'on n'entre pas, à ne pas être tellement porté. Par la fin, à ne pas se diriger vers la fin comme ça avec hâte, comme si c'était le moment le plus important, mais qu'au contraire de s'attarder dans la réalisation et de laisser à la réalisation un temps plus ample, en fait plus final dans notre activité, serait peut-être quelque chose de bénéfique d'une manière assez générale.
Mais est-ce que pour certaines œuvres vous vous posez la question de leur achèvement quand même de temps en temps ?
Non, jamais. Enfin, non.
Ce sont toujours des essais, des sortes de tentatives de vérification.
Oui, plutôt. Pour définir cette caractéristique de mon travail, j'ai toujours longtemps j'ai utilisé le mot projet, qui est assez impropre. En fait, j'ai réalisé en travaillant avec Élie Düring, finalement, cette caractéristique du projet d'être projeté, enfin, qui est quand même le sens premier du mot, ne me convenait pas tellement. Donc, récemment, je choisissais un mot différent qui, lui, veut strictement rien dire à personne, qui est appareillage. Appareillage, c'est la manière dont on assemble les pierres d'un mur, en fait. Elles tiennent toutes les unes sur les autres, mais sans qu'elles soient forcément taillées pour. Elles s'appareillent les unes aux autres, et l'appareillage d'un mur, c'est la manière dont la construction tient, en fait. Et je voyais plutôt mon travail comme ça, finalement. Chacune des pièces du travail, c'est-à-dire les photographies, les dessins, les maquettes, les choses comme ça, sont comme les pierres d'un mur. Elles s'appareillent les unes aux autres, en fait, pour fonder ou pour former une construction dont moi-même dont non seulement je connais pas la forme, mais en plus au fond ça m'intéresse assez peu. Je veux dire, est-ce qu'un maçon s'intéresse véritablement à la maison qu'il construit? Je suis pas très sûr, en fait. En réalité, on s'intéresse à la manière, quand on est maçon, dont les briques ou dont les pierres s'ajustent les unes aux autres. Et la magie du travail, en fait, la magie de ce travail-là repose sur ces ajustements-là, précisément. Et il y a quelque chose d'important dans le fait que les pierres soient convenablement ajustées, avec méthode et risque en même temps, avec intelligence d'une certaine manière. Et la forme de la maison, elle se dérobe un peu, en fait, elle est extrêmement lointaine. Et je vois plutôt mon travail comme ça, en fait, l'ajustement des pièces les unes aux autres, plutôt qu'une œuvre comme ça qui prendrait soit une importance, soit une forme qui serait instituée dès le départ. Mais toutes les expositions sont des appareillages. En fait, justement, il y a eu beaucoup de conversations il y a quelques années, surtout initiées par Ansulris Rubricht sur qu'est-ce qu'une exposition, une exposition qui pourrait être jouée, etc. Et il me semble que l'idée d'une composition comme d'une partition est fausse et qu'ils sont dans l'impasse avec ça. En fait, l'exposition est effectivement un appareillage et l'appareillage se joue indépendamment des briques. En réalité, l'intelligence de la mise en œuvre de l'exposition, c'est l'intelligence de la relation. L'intelligence de la relation, elle peut être jouée sans avoir à nouveau les œuvres. C'était pas la peine de faire à la Biennale de Venise, de reproduire à la Biennale de Venise une exposition antérieure. En fait, c'était pas ça le propos, et je pense pas que c'était ça l'idée d'Harald Zeman. Je pense qu'il se trompe.
Vous faites référence à l'exposition de la Fondation Prada qui s'est tenue pendant une Biennale de Venise.
Oui, à ça.
Et qui rejouait en quelque sorte, qui recomposait.
Réinterprétait, comme si c'était une symphonie, comme si on pouvait réinterpréter une symphonie. Enfin, comme si on pouvait réinterpréter une exposition comme une symphonie,
et
en reprenant les mêmes objets.
C'était l'exposition de Harald Zeman, When Attitude Become Form.
Et je pense qu'en fait, il serait mieux inspiré, mais c'est peut-être moins possible, de reproduire l'intelligence de Zeman plutôt que d'en reproduire les formes. Mais effectivement, c'est peut-être inaccessible pour eux.
Vos œuvres, elles s'inscrivent dans le temps, néanmoins, et leur rapport à la mémoire est parfois... Enfin, leur rapport à la mémoire n'est pas quelque chose qui leur est étranger, n'est pas quelque chose qui vous est étranger. Il vous est même arrivé de réutiliser des œuvres anciennes, par exemple, dans l'exposition 15 ans de peinture que vous avez faite à Tours. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'était ? Une sorte de remploi ?
Non, oui, non, je sais. En fait, 15 ans de peinture a débuté dans une exposition antérieure à la Galerie Valois. En fait, je fais presque toutes mes premières, entre guillemets. Mais enfin, en tout cas, j'expérimente mon travail avec la galerie avec laquelle je travaille depuis toujours. Et dans cette galerie, en fait, j'avais deux expositions qui suivaient à 2 ou 3 ans d'intervalle. Et je voulais que dans la deuxième exposition, on puisse avoir des pièces de l'exposition précédente. Et on n'en avait pas. Enfin, en tout cas, on n'avait pas celle que je voulais. Donc, j'ai décidé de redessiner, en fait, cette pièce manquante, qui était une photographie de grand format, et de la redessiner en trompe-l'œil, en fait, c'est-à-dire d'en faire un trompe-l'œil suffisamment précis pour qu'il puisse tenir comme l'œuvre originelle, et en même temps suffisamment simple pour qu'il soit véritablement un trompe-l'œil. Il ne s'agissait pas de retirer la même pièce et de la réencadrer pareil, donc le cadre était dessiné en trompe-l'œil. Et on avait la même image, en fait, au même endroit, mais c'était pas deux fois la même chose. C'était le fantôme d'une. En fait, la forme de la mémoire, on revit pas un événement, mais on est capable de se le représenter une deuxième fois et de le tenir de tenir cette représentation pour suffisamment réelle pour qu'elle puisse étayer notre point de vue. J'ai toujours été assez intrigué finalement par le fait de tenir pour existantes des œuvres que j'avais jamais vues. Et donc, on n'en voit que des reproductions en noir et blanc dans des magazines ou des choses comme ça. Mais pourtant, c'est bien là-dessus qu'on pose notre réflexion qu'on assoit notre travail. Du coup, pourquoi faire des œuvres et pas des reproductions en noir et blanc d'œuvres qui permettraient de continuer à penser ?
Est-ce que parfois vous avez envie de retoucher des œuvres que vous avez faites ?
Oui, ça arrive parfois. Alors, bon, comme j'ai la chance de travailler avec de la photographie, justement, et que la photographie est par nature parfois périssable, et que certaines sont... Il y a les photographies qui ont été accidentées, mais il y a aussi les tirages multiples. On tire à 3 exemplaires, et je me suis fait surprendre plusieurs fois à avoir fait un 3e exemplaire différent des 2 premiers, parce que j'avais simplement retouché des parties de l'image. Pour moi, alors bon, ça a posé un problème à tout le monde que les 3 exemplaires de la même chose soient pas exactement identiques. Pas pour moi. Je veux dire, ça me semblait assez normal de retravailler la chose. Si une œuvre reste à ma portée, je vais la corriger.
Et vous pensez qu'on progresse dans son art ?
Non, je pense pas. Je pense que on précise son regard plutôt sur ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire qu'on a peut-être un regard de plus en plus exigeant sur ce qu'on est en train de faire, ou de plus en plus méfiant peut-être, enfin un peu. Mais je pense pas qu'on progresse au sens où on l'entend habituellement, sens où on donne au progrès quoi, d'amélioration et de marche en avant comme ça.
Et vous imagineriez un jour d'arrêter, de ne plus travailler ?
En même temps, tout à l'heure, j'ai dit que je travaillais pas. Du coup, je vois pas exactement ce que je peux arrêter, sauf si je me mets au travail. Mais ça m'étonnerait qu'on me le propose maintenant. Donc oui, ça serait un peu je pourrais arrêter de travailler en travaillant, en faisant autre chose, quoi. Oui.
Ce que vous avez fait à plusieurs reprises, d'une certaine manière.
Ça serait assez possible. Et je suis pas sûr que ça me déplaise. Je veux dire de commencer à faire autre chose, d'être un autre travailleur pour un temps, ça me déplairait pas. Donc oui, je peux arrêter de travailler.
Aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs. Comment ?
Non, rien, c'est bon. Oui.
Aujourd'hui, vous êtes un artiste très reconnu. Vous avez eu de véritables succès critiques à la fois dans la presse populaire, dans la presse spécialisée. Vous avez autour de vous une sorte de famille de critiques, de théoriciens, d'historiens de l'art qui vous accompagnent, d'anthropologues aussi qui vous accompagnent. Comment vivez-vous la réception critique de votre travail ?
On se rend pas compte. Je me rends pas compte. Je suis toujours étonné quand on me le dit et je soupçonne que ça soit pas tout à fait vrai ce que vous dites. Donc j'ai pas cette impression en fait. Peu de gens s'intéressent à moi et j'ai effectivement des amis et des gens proches qui écrivent des choses qui m'étonnent et qui m'apprennent des choses sur mon travail. Mais on se rend jamais compte de la réception du travail en fait. Et en même temps, c'est quelque chose de troublant parce que on n'est jamais artiste que dans le regard des autres. C'est-à-dire que, en tout cas pour moi, mais je pense que c'est valable pour la plupart d'entre nous, on réalise qu'on est artiste un jour où on nous le dit. En fait, on n'est pas artiste en le décidant comme ça. On l'est en le décidant mais en réalité, ça ne prend corps que dans le regard des autres.
Et quand vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, vous pensez aux visiteurs de vos expositions ?
Non, pas comme ça, en fait. Non, pas comme ça. Non, les dédicaces dont je parlais tout à l'heure sont toujours beaucoup plus privées que ça, en fait. Et souvent très décalées. Non, quand je travaille, je pense même pas aux expositions vraiment. En fait, je pense au travail lui-même, en fait, à la chose lui-même. Tout à l'heure, je parlais du mur, et c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand je travaille, je veille à ce que les ajustements entre les briques soient des ajustements élégants. Et mes enjeux dans mon travail sont extrêmement techniques, extrêmement précis finalement, et probablement pas très intéressants pour le public comme ça. Enfin, je veux dire.
Et la reconnaissance, vous y êtes sensible ?
Mais on n'est pas reconnu. Ça, en fait, ça existe pas. C'est, je sais pas d'où vient l'idée qu'on puisse. On l'est jamais vraiment. Le travail l'est parfois un peu. Et c'est toujours un peu étonnant. Mais non, j'ai jamais. Je sais pas. Oui, vous le disiez. Je veux bien l'admettre. Mais ça me paraît un peu curieux de dire que je suis reconnu. Mais bon.
Finalement, est-ce que la question de la postérité se pose à vous ?
Ah ben oui, j'ai appris ça. Alors récemment, il paraît que je suis un moderne. Donc c'est pas la question de la postérité. C'est l'histoire existe pour moi. C'est-à-dire que l'enchaînement des événements, les choses fabriquées, etc. Tout ça, c'est pas quelque chose qui a disparu avec les années 80. C'est quelque chose qui continue à exister et les faits s'imbriquent les uns dans les autres, les actions, les volontés. Et effectivement, la manière dont mon activité, pas forcément mon travail, mais mon activité et le temps que j'ai passé à vivre s'inscrit dans le monde en général et dans la société dans laquelle j'ai vécu. Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue un peu. Ce qui m'a toujours étonné, enfin ce qui m'a étonné tôt avec l'histoire, toujours c'est juste ce qui m'a étonné tôt avec l'histoire, c'est le fait que l'importance des faits soit extrêmement variable. Qu'en fait, c'est particulièrement visible pour les œuvres d'art. Une œuvre d'art prend son importance de l'activité des artistes contemporains. Et elle le perd de la même manière, c'est-à-dire que les artistes deviennent importants si les artistes de notre du moment ont des pratiques qui coïncident avec ces pratiques plus lointaines, et tout d'un coup cette espèce de généalogie d'ensemble se crée. C'est un peu comme les lignes qu'on peut tracer entre les étoiles pour y voir des dessins ou des formes. En fait, l'histoire c'est un peu c'est un ciel étoilé, c'est-à-dire que les étoiles brillent, les faits existent, ils sont tous là, et on les relie au jour le jour à partir du moment dans lequel on se trouve, de ce qu'on peut voir, etc. Donc on réinvente l'histoire tout le temps, alors que les faits sont toujours présents et qu'on peut discuter de leur brillance, etc. Mais les lignes, on les refait tout le temps. Et donc La postérité du travail ou ce que j'ai pu faire ou ne pas faire est à la fois peut-être important à un moment et peut disparaître complètement.
Pour finir cette masterclass, Alain Bublex, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a deux jeunes artistes dont vous suivez le travail depuis presque une dizaine d'années déjà, bien que vous n'enseigniez pas. Est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez à un jeune artiste ?
C'est difficile. Il n'y a pas de deuxième fois. Chaque travail est toujours le dernier travail qu'on pourra faire.
Merci beaucoup, Alain Bublex, pour cette masterclass.
Merci à vous.
C'était la masterclass de Alain Bublex avec Anaëlle Pigeat. Attachée de production Nathalie Lempereur, coordination Arnaud Laporte, réalisation Clotilde Pivin.